aujourd'hui, hein.
Putain, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus, hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Y'en a plus. Oh, y'a plus de café, là.
Attends, on fait après l'émission.
Mon papier, il est pas imprimé, là.
Les jours. Ouais, ce casque qui marche pas, mais c'est pas
vrai. Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip, bip, bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois.
Zou.
Allez, les gars.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va.
Allez, c'est parti.
Vivement que je sorte du couloir pour que je la touche enfin. Ouh. Chacun y mettra la suite qu'il veut dans ce titre. Bienvenue dans notre matinale du mercredi de la Saint-Clément. Saint-Clément aujourd'hui bien brumeux. Bonjour Delphine.
Bonjour à tous.
Bonjour Elsa.
Salut.
Bonjour Chloé. Bonjour Philippe. Il n'y en a plus. C'est bon, ça suffit. Au sommaire de cette matinale, dans Chou et Fadaise, l'impact du réchauffement avec Elsa sera suivi de la chemise à rayures pleine de vent avec Delphine. On continuera avec la chronique de la Maison de la Mémoire aujourd'hui avec un personnage célèbre dont une rue porte son nom. Et on finira avec Audrey avec sa couille, pas la, ça, la sienne, hein, la couille, sa couille dans le potage. Vous verrez bien ce qu'elle va nous raconter. Et on retrouve dans les CD de la semaine celui qu'on a déjà entendu hier, il me semble, Fatoumata Diawara. Fatoumata Diawara et son album qui s'appelle Fatou, tout simplement, son deuxième album. Elle est malienne, elle vit en France. Son genre musical est le folk Wassalou. Wassalou, c'est quoi le Wassalou? Le Wassalou, c'est une région d'Afrique de l'Ouest, centrée sur la ville de Yanfolia, à cheval sur le Mali, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Du folk Wassalou avec Bissa. Et on y va.
Oh,
falaise.
Bah pourquoi chou?
Bah parce que feuille.
Ah!
Mais on ne se mouche pas sur le micro. Et l'impact du réchauffement climatique sur le vivant, Elsa, tu vas nous en parler ?
Et tout à fait, Manu. Donc on nous parle de crise écologique, économique, financière, mais qu'en est-il pour les autres espèces vivantes ? Vous savez qu'on est vraiment très centré sur les humains en ce moment avec tout ça. Quelles conséquences notre société consumériste a sur la biodiversité ? On s'inquiète, on se préoccupe du sort humain pour les années à venir, mais qu'en est-il des animaux et des plantes ? Dans cette revue de presse, nous nous intéresserons donc aux êtres vivants, si vous le voulez bien, les autres. Tout d'abord, remontons un peu dans le temps, à l'époque des ères glaciaires. Sur le site internet notreplanète.info, nous apprenons que déjà à une époque si lointaine, nos ancêtres auraient entraîné la disparition de quelques mammifères primitifs. Une équipe internationale de scientifiques menée par l'université de Copenhague au Danemark suggère que l'activité anthropogénique, c'est-à-dire humaine, et le changement climatique ont perturbé l'histoire génétique de plusieurs grands herbivores, déclenchant l'extinction ou la quasi-extinction de larges populations de mammifères en 10 000 ans. Donc à cette époque, il n'y avait pas la pollution comme maintenant, donc c'était pas le changement climatique, c'était pas les conséquences directes. On va voir comment en fait l'être humain il a empêché les animaux. Selon ces scientifiques, il n'y aurait pas une cause unique, mais plusieurs causes responsables de l'extinction des espèces. Une source d'information qu'ils ont utilisée, c'est évidemment l'ADN. On va voir, dans cette revue de presse, ça sera que des trucs scientifiques. Donc l'ADN des animaux de ces époques qu'ils ont retrouvés. L'équipe a découvert qu'à l'extinction du rhinocéros laineux, alors on rigolait Manu tout à l'heure parce que le rhinocéros, on a du mal à imaginer qu'il a été laineux.
À moins 50, oui, il vaut mieux.
Il vaut mieux à cette époque-là, hein, l'époque glaciaire. Dont l'habitat donc, de ce rhinocéros laineux n'a jamais recouvert celui de l'homme. Les autres espèces mammifères qui ont disparu ont été soumis à l'influence humaine, notamment car nos ancêtres empêchaient les animaux de trouver des refuges alternatifs, principalement à cause de l'expansion des populations humaines. Déjà à cette époque. Le professeur Shapiro termine cet article avec ces mots. En conclusion, il convient de retenir que lors du dernier réchauffement, lorsque la période glaciaire est passée à la période interglaciaire actuelle, un élément a empêché les animaux de faire ce qu'ils ont, jetons la feuille, toujours fait, à savoir trouver de nouveaux refuges ou des territoires où maintenir leur population. Cet élément était probablement l'homme.
Encore ?
Ça fait froid dans le dos. En fouillant, j'ai appris que l'on se situe actuellement dans une époque qui se nomme l'Holocène. Je ne sais pas si vous le saviez.
Oui, c'est juste à côté, au fond à droite.
Au fond à droite dans la rue. Donc sur Wikipédia, je me suis renseignée c'est quoi l'Holocène. Et eux, ils parlent de l'Holocène et de son extinction, justement. Donc je voulais savoir de quoi il s'agissait. L'extinction de l'Holocène, c'est le nom donné habituellement à l'extinction massive et étendue des espèces durant l'époque contemporaine ou dite moderne de l'Holocène qui continue actuellement. Ça a commencé environ à moins de 10 000 avant Jésus-Christ et on est encore dans cette période. Donc ces disparitions massives concernant de nombreuses familles de plantes et animaux. Là encore, on apprend qu'au début de l'Holocène, donc je viens de dire la date, après la dernière glaciation, ce sont surtout les continents et les îles nouvellement conquis par l'Homo sapiens qui ont vu leurs grandes espèces disparaître. Dans le début du 19e siècle, et en accélération constante depuis les années 1950, les disparitions concernent les espèces de petite taille, de toute taille, et ont surtout lieu dans les forêts tropicales humides, où il y a la plus grande biodiversité, comme nous le savons. Le taux d'extinction actuel est de 100 à 1000 fois supérieur au taux moyen naturel constaté dans l'histoire de l'évolution de la planète. C'est assez effarant quand même. En 2007, l'Union internationale pour la conservation de la nature évalue qu'une espèce d'oiseau sur 8... un mammifère sur 4, un amphibien sur 3 et 70% de toutes les plantes sont en péril. Et ça, c'était en 2007. Hein.
Oui.
Oui. Apprenez que l'on parle actuellement d'une extinction massive et de sixième extinction. C'est assez effrayant, mais ça s'explique. Car le nombre des disparitions est comparable, sur une courte période, aux autres 5 grandes périodes d'extinction massive qui ont marqué le passé géologique de la Terre. Ça veut dire que sur un temps relativement court et actuel, nous avons dépassé les dégâts des 5 plus grandes périodes d'extinction précédentes dans l'histoire de l'humanité. C'est joli, non ?
Oui, si tu veux.
Pour finir cet article de Wikipédia, on apprend que ces risques actuels concernent des grands animaux appartenant à des espèces ayant survécu à 3 glaciations précédentes. Et donc nous allons poursuivre avec les abeilles, ça va nous réchauffer après l'ère glaciaire. Vous connaissez certainement cette célèbre citation prophétique d'Einstein, « Si l'abeille venait à disparaître, l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre. »
Quatre.
4. Oh Manu, bravo. L'histoire des abeilles accompagne celle de l'homme depuis l'aube, depuis le tout début de l'humanité. L'homme en savoure le miel. Aujourd'hui, le nectar se fait rare car les abeilles sont malades. Depuis une trentaine d'années en France, les populations d'abeilles diminuent, se fragilisent, voire meurent. Sur le site internet Science Actualité, un article intitulé « Et si les abeilles disparaissaient ?» décrit l'importance qu'ont les abeilles sur l'équilibre de l'écosystème. Rappelons que l'abeille fait partie du patrimoine de la culture humaine, je viens de le rappeler. On la retrouve dans des peintures, dans des hiéroglyphes en Égypte. En fait, c'est vraiment, on s'en sert de son miel depuis toujours. Mais tout d'abord, les abeilles en France et en chiffres. Alors les chiffres que j'ai trouvés, c'est 2004, j'en ai pas trouvé de plus récent malheureusement. Mais donc le nombre de ruches est passé de 1,5 million en 1994 à 1 million en 2004. 10 000 entreprises apicoles ont disparu en 20 ans. Et comme les productions de miel se font de plus en plus rares, 22 000 tonnes de miel sont importées aujourd'hui en France. Alors concrètement, comment ça se passe pour les abeilles? Malformations, troubles du système nerveux, désorientation, troubles du comportement. Les abeilles présentent toutes sortes de symptômes qui révèlent un état de santé plus que fragile. Certaines abeilles ne retrouvent même plus leur ruche. D'autres en sont refoulées parce qu'elles ne sont plus reconnues par le reste du groupe. C'est le constat de différentes études menées par l'INRA depuis une dizaine d'années. Pour Yves Lecomte, directeur de recherche à l'INRA, les choses sont claires. C'est carrément l'activité humaine qui menace les abeilles. Quelle part de responsabilité aux insecticides? Donc France Aletru, c'est le président du syndicat des apiculteurs de Vendée, c'est un peu loin mais bon, annonce que les insecticides de nouvelle génération sont accusés de provoquer la mort des abeilles. Ils devraient uniquement protéger la plante, mais ils seraient évidemment mangés par les abeilles pendant que la pollinisation, tout ça. Ça semble assez logique en fait, hein. Et donc, les effets nocifs de ces insecticides ne seraient pas limités aux abeilles seulement. Selon certains experts de l'INRA, leurs molécules présentent des dangers multiples pas encore assez évalués. Les molécules employées ne seraient pas sans effet sur l'homme aussi. Ben, du coup, on s'en doute, ça paraît assez logique aussi, hein. Et j'ai assisté, bon, il y a à peu près 5 ou 6 ans à Rodez à des procès d'apiculteurs. Donc eux, c'était, ils avaient quoi, une quinzaine de ruches. Et ils se rendaient compte d'année en année que les abeilles étaient malades et leurs filles aussi. Ils avaient deux filles qui avaient les yeux rouges, qui se grattaient, qui avaient des allergies. Et ils ne comprenaient pas, ils ont fait des recherches d'où ça pouvait venir. Et un printemps, il a traversé la colline. De l'autre côté, il y avait un champ de maïs Monsanto OGM. Et la pollinisation, l'air a rendu les abeilles, mais aussi la famille malade, quoi. Donc les pesticides, on peut dire, mais aussi, bien sûr, les OGM. Donc, dans cet article, on apprend également que parmi les insecticides, un neurotoxique, le régent, il a été supprimé. Les apiculteurs, les dernières années, ils ont réussi à le supprimer. La vente, voilà, est finie. Et il y a aussi le gaucho sur maïs, fabriqué par Bayer, super compagnie Bayer. Et lui, il a été mis en cause et a été retiré un peu plus tard aussi du commerce. Pourtant, la nocivité de ces molécules n'est pas établie de manière absolue. Des expertises ont donné des résultats contradictoires. Ainsi, d'autres recherches menées par l'INRA présentent des résultats moins catégoriques. Mais les fabricants rejettent évidemment toute responsabilité. Donc ça, c'est devenu un problème mondial aux multiples causes. En 30 ans, les pathologies multiplient, ont touché les abeilles, sont répandues partout sur le globe. Et dans cet article, il y a des exemples intéressants, comme en Inde, dans le sud de l'Inde, dans le Karnataka. Et c'était un des pays, enfin, producteurs du miel énorme. Et jusqu'à 90% des colonies d'abeilles ont été détruites au début des années 90 par un virus importé. Au Québec, dans la région de Rimouski, les populations ont été décimées par des agents parasitaires inconnus. Et en Irak, ce sont les effets toxiques de la guerre du Golfe, fumée due aux incendies des puits de pétrole, qui ont détruit 90% des colonies apicoles. Donc il y a plein d'événements, d'effets qui font que les abeilles disparaissent. Donc il s'agit, voilà, pas non seulement un problème français, mais bien mondial. Et sur rue 89, on apprend qu'il y a 2 mois, il y a eu une grosse manifestation d'apiculteurs. Je ne sais pas si vous avez été au courant. Et ça s'appelle, cet article, « Les apiculteurs ont la trouille de l'insecticide Cruiser ». Alors ça, c'est un des derniers insecticides super puissants. Et il y a 2 mois, ils sont venus, en fait, les apiculteurs d'un peu partout en France avec leurs abeilles, s'installer dans le 5e arrondissement à Paris pour réclamer, je trouve ça très drôle, l'asile écologique, en disant que les abeilles meurent à la campagne à cause des OGM, des pesticides, et que du coup, elles seraient mieux en ville. C'est quand même assez marrant. Donc voilà, sur cet article, on voit un petit peu ce que c'est le Cruiser et on n'arrive pas à le retirer du marché. Donc il y a des pétitions qui tournent d'apiculteurs, de maraîchers, etc. Voilà, donc d'un autre côté, on dit on retire du marché des pesticides anciens qui étaient tueurs d'abeilles et très mauvais. Mais d'un autre, on en autorise des nouveaux encore plus nocifs et puissants. Donc ça, c'est assez étrange. Et la prophétie d'Einstein, on pourrait dire donc, en conclusion pour les abeilles, qu'elle est fondée puisque les scientifiques nous expliquent que hormis l'abeille, c'est toute la chaîne complémentaire qui relie l'animal au végétal qui se trouve déréglée. Parce que pas d'abeille, ça veut dire pas de pollinisation. Pas de pollinisation, ça veut dire disparition des espèces végétales. Et qui dit disparition des espèces végétales dit forcément disparition des espèces animales. Et voilà, c'est fou comme un si petit insecte a un rôle aussi important sur la vie. On se dit que finalement, nous les humains, on est peu de choses à côté, quoi. Voilà, toujours dans cette revue de presse web, le site internet Futura Science. C'est un site qui est vachement intéressant, je trouve. Bonnes informations. Nous apprenons que les animaux s'adaptent au changement climatique en modifiant leur taille. C'est vraiment super intéressant cet article, si vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur ce site. Et en fait, on apprend que oiseaux, renards et petits mammifères adaptent leur régime alimentaire au changement climatique. C'est logique, plus il fait chaud, plus tout se modifie, le végétal, et du coup l'animal. En conséquence, des chercheurs israéliens ont montré que la taille des animaux varie là où les changements sont les plus extrêmes. Et ça, c'est dans les latitudes nord, c'est ça, je dirais ? Attends, oui. C'est aux hautes latitudes, ouais, que le réchauffement est le plus rapide. Donc c'est le cas du renard polaire d'Islande et d'autres. Et un spécialiste scientifique qui s'appelle Yoram, parce que c'est une étude israélienne, Yoram Yom Tov, au département de zoologie de l'université de Tel Aviv, qui nous explique tout ça. C'est un article vraiment intéressant. Pour lui, ces changements radicaux pourraient être une réponse adaptative au changement climatique. Alors lui, il est un peu dans l'entre-deux, mais il conclut quand même qu'il y a une grande chance que ce soit la pollution humaine, toujours l'activité humaine qui soit responsable de ça. Voilà, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. En fait, il y a des animaux qui vont devenir plus petits, d'autres plus gros, et d'autres qui n'arriveront tout simplement pas du tout à s'adapter au changement, parce que ça va changer l'alimentation, mais toujours pareil, le dormir, etc. Et voilà, puis après, vous pouvez vous renseigner de votre côté sur l'OMS, le site de l'Organisation Mondiale de la Santé, sur ce que le changement climatique fait sur la santé humaine aussi. Voilà.
Heureusement que ces jours-ci, il a plu, qu'il y a de l'eau dans la sorgue et qu'on peut aller s'y jeter sans trop de dégâts. Ouais, parce que c'est très réjouissant ce que tu nous annonces là. Bon, pour se réjouir, ben on va partir dans une chemise à rayures.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage sur Radio Centrafrique.
Le soleil brille et personne ne s'en soucie. Le vent souffle et les mâts s'érigent vers le ciel. L'éolien industriel, enjeux et perspectives, c'est le thème de la conférence du Cap Vert, au Cap Vert ce samedi. Mais Delphine va nous en dire un peu plus.
Oui, l'éolien industriel n'est-il pas un paradoxe qui allie l'écologie à l'économie? C'est en partie ce que souhaite démontrer le collectif Énergie Alternative de Midi-Pyrénées. Samedi, il organise une conférence débat alors que se profile à l'horizon 2020 un projet de construction de quelques 600 éoliennes industrielles dans notre région, y compris dans le sud Aveyron. Membre de ce collectif, Armand Liquière tire la sonnette d'alarme.
Ce collectif, c'est en fait la réunion de toutes les associations qui se sont créées au fil des années, région par région, village par village, chaque fois que un projet éolien industriel est venu secouer la tranquillité du pays. Donc ce collectif, c'est la réunion de 17 associations, qui sont des associations en grande partie aveyronnaises, mais qui sont également des associations de l'Hérault et du Tarn. Il faut savoir que Midi-Pyrénées a choisi le département du Tarn et de l'Aveyron pour construire les 600 éoliennes qui sont prévues d'ici 2020. Et donc nous sommes un petit peu les régions avec l'Aveyron et les monts de la Cône dans le Tarn. Nous sommes les régions sacrifiées par Midi-Pyrénées, sacrifiées à l'éolien industriel.
Quelle est la différence entre l'éolien industriel et l'éolien qu'on a l'habitude de connaître?
L'éolien que l'on a l'habitude de connaître, c'est un tout petit éolien. Nous en avons une à Sainte-Afrique. D'abord, il n'est pas très très développé, l'éolien particulier. Nous en avons une à Sainte-Afrique qui a posé des problèmes, effectivement, à son voisinage, mais enfin qui reste quand même quelque chose de relativement discret. Alors qu'actuellement, quand on parle d'éolien industriel, il faut savoir que nous avons affaire à des machines qui font plus de 100 mètres de haut. Les premières, les toutes petites qui se sont installées dans la région sont celles du maire des Loups, sur la commune de Peu-et-Coufouleux. Mais c'était des éoliennes de 70 mètres de haut. Les éoliennes qui sont actuellement en train de s'installer font 125 mètres. Et les projets qui vont nous toucher de très très près, puisqu'il y a des projets de 5 éoliennes sur les Costes Gozon et sur la commune de Saint-Rome-de-Tarn. 5 éoliennes sur Saint-Rome-de-Tarn, 5 éoliennes sur les Costes Gozon sont des éoliennes de 145 mètres de haut. Or, des éoliennes, si vous voulez, de 120 ou 140 mètres de haut, sont des éoliennes que l'on voit absolument de partout, y compris du Larzac, qui vient d'être reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ces éoliennes créent des nuisances visuelles, mais créent également des nuisances auditives, hein, pour le proche voisinage, mais aussi pour le voisinage beaucoup plus éloigné. Et c'est en quelque sorte marque, si vous voulez, de leur empreinte, le paysage. Donc on est en train, et ça il faut que les gens en prennent bien conscience, on est en train de perdre complètement l'identité de notre pays.
Dans le sud d'Aveyron, c'est quelles communes qui sont particulièrement touchées ?
Il y a des projets donc, sur la commune des Costes Gozon, un projet sur la commune de Saint-Rome-de-Tarn. Il y a deux projets dont les permis de construire ont été accordés sur Sainte-Afrique. Il y a des projets un petit peu partout. Il y a des projets sur les monts qui bordent la vallée de la Sorgue, c'est-à-dire sur Fondamente. Il y a des projets sur Cornus. Il y a des projets sur tout le Camarès, sur la région de Mélague. Si vous voulez, actuellement, il doit y avoir entre 100 et 130 éoliennes à l'étude ou en projet, avec un objectif 2020, 600 éoliennes sur ce foyer. Il faut savoir qu'il existe déjà en place plus de 80 éoliennes sur le Levezou. Donc c'est énorme. D'ailleurs, quand on monte à Rodez, on ne peut pas ne pas les voir. Il y en a tout le long de la route et il y en a d'autres en projet. C'est quelque chose qui est en train de devenir dramatique. Et alors, ce qui est très très important, et c'est le but de notre réunion de samedi, c'est que c'est la première fois que toutes les associations qui luttent, parce qu'il faut savoir que ces associations sont souvent en procès pour essayer d'obtenir l'annulation des permis de construire, et toutes ces associations ont mis en commun leur savoir, leur expérience, et ont demandé à des conférenciers qui sont très pointus dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la production d'énergie, dans le domaine avifaune, hein, tout ce qui est ornithologique. Donc ces gens-là, si vous voulez, vont venir à Sainte-Afrique pour expliquer à tous les Saint-Africains, à tous les gens de la région, et notamment aux élus, si les élus veulent bien se déplacer, l'importance et l'impact que l'éolien industriel a sur le pays. Et il faut savoir une chose, c'est que contrairement à tout ce qu'on essaie de nous faire gober, l'éolien industriel, c'est de l'industriel, ce n'est pas écologique, ça dépense énormément de CO2 parce que ça emploie énormément de béton qui est coulé dans le sol et qui, même 20 ans après, restera dans le sol parce qu'il n'est pas prévu de l'enlever. Hein, ça coûte très cher aussi en CO2 pour construire les éoliennes, pour les transporter, pour préparer les terrains, et ça coûte très cher aussi en déforestation, hein, parce qu'on n'hésite pas à déforester pour implanter de l'éolien pour des raisons soi-disant écologiques, alors qu'en fait, ça ne répond qu'à des lobbies financiers.
Et justement, qui finance ce projet et quelles sont les retombées économiques ?
Alors, les retombées économiques, elles sont un petit peu moindres. Il y avait des retombées économiques qui sont évidemment pour le promoteur éolien, hein, parce que le promoteur éolien est subventionné. Il est subventionné de deux façons, soit par des subventions européennes, c'est-à-dire nos impôts, hein, et il est subventionné aussi par un prix de l'électricité qui est le double du prix habituel que l'EDF paie pour de l'électricité, c'est-à-dire que c'est payé à 8 centimes, 2 du kilowattheure, alors qu'habituellement ça tourne aux alentours de 3 et quelques centimes. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est tous les consommateurs d'électricité qui subventionnent ces promotions. C'est-à-dire que non content de se faire détruire notre pays, on le finance, on finance nous-mêmes la destruction. Hein, et ça rapporte énormément aux promoteurs qui, pour pouvoir s'implanter arrose les communes, arrose le département. Alors avant, il y avait les taxes professionnelles, hein, qui étaient versées aux communes et puis ensuite qui se répartissaient département-région. Maintenant, il y a une nouvelle taxe qui est un petit peu moindre, donc les communes touchent un petit peu moins d'argent. Le Conseil général, lui, en touche un peu plus. Hein. Mais, si vous voulez, ce qui a fait l'attrait de l'éolien, c'est cet apport dans des toutes petites communes d'argent frais. Et il y a également le prix de location du terrain qui est versé aux propriétaires du terrain et qui représente un revenu pour une agriculture qui souffre très souvent. Donc c'est tout à fait humain d'accepter un revenu supplémentaire. Mais il faut savoir que ces gens-là, si vous voulez, quand ils acceptent ce revenu supplémentaire, ils s'imposent aussi des contraintes et souvent des nuisances.
Qu'est-ce que vous proposez comme alternative à ces éoliennes industrielles ?
Alors, l'alternative ne nous appartient pas parce que nous n'avons pas les moyens, en tant que petite association, de conduire une politique énergétique. Nous savons qu'il existe des systèmes de biomasse. Moi, j'aurais presque envie de dire, commençons par économiser, parce que c'est certain que l'électricité, si vous voulez, actuellement, est très très largement gaspillée. Donc il est certain que si on commençait par économiser, on n'aurait pas besoin de produire plus d'électricité. Ce que l'on nous reproche souvent, c'est de dire « vous ne voulez pas des éoliennes, vous préférez qu'on vous mette une centrale nucléaire ». Ce n'est absolument pas notre propos. Nous ne remplacerons pas le nucléaire avec de l'éolien, ça aussi il faut le savoir, parce qu'il n'y a pas assez de place en France pour implanter assez d'éoliennes pour remplacer les centrales nucléaires, mais nous ne sommes absolument pas pour les centrales nucléaires, et il ne nous appartient pas, il appartient aux dirigeants, de trouver des énergies et de trouver des économies d'énergie aussi. Nous, tout ce que nous voulons, c'est conserver notre biodiversité, c'est conserver notre pays, et c'est éviter justement que l'industrie s'évade des villes et des zones industrielles pour venir à la campagne.
Armand Liquière, du collectif Énergie Alternative de Midi-Pyrénées, pour débattre sur l'éolien industriel, rendez-vous samedi à 21h au Cap-Vert à Sainte-Afrique.
Ah, ce qu'on est con. Voilà la transition qui va bien. C'est le titre de l'album de Dean Edeon. Dean Edeon, trio aux chansons réalistico, poétique sonorité de l'entre-deux-guerres. Sa tangote, sa musette, ça fait orchestre de baloche. Gérald Dean, s'est amouraché d'un accord. Edeon, le roi du pétrole.
C'est le fric et mes beaux costumes chics. Ils y sont tous accros. Les riches comme les prolos. Comme il en faut pour tous ces bancos. C'est moi le roi du pétrole. Le business c'est du rock'n'roll. Mon héroïne c'est le fric et l'or noir de l'Afrique. Ils y sont tous accros. Tout est fabrication industrielle. Plus l'industrie tourne. on est mal fait. Toutes les femmes sont à vos pieds. Oui, l'argent, c'est un beau pied donné à la nature. C'est moi le roi du pétrole. J'empoche et je caracole. Mon héroïne, c'est le fric et l'or noir de l'Afrique. Ils y sont tous accros, des riches comme le Roland. Comme il en faut pour tous ces bancos. Lorsqu'il n'y aura plus de pétrole, le monde redeviendra agricole. Et la terre aura comme un goût d'éthanol. Moi j'aurais déjà rejoint Éole, perché à 2000 mètres du sol.
Eh ben, je savais pas. Dîner d'Éon, ce qu'on est con. Le roi du pétrole, ben, ça fait deux fois que vous l'écoutez, c'est pas grave, ça nous a bien plu, donc on vous l'a remis une deuxième fois. Qu'est-ce que vous voulez, lundi et aujourd'hui, tant pis. Louis-François Eugène Peyre-Cadias, une rue porte son nom, mais qui était-il ce monsieur ?
(3A-246) Chronique de la maison de la mémoire.
De nous parler de Louis-François Eugène Peyre-Cadias au travers d'archives qu'on n'a pas encore trop regardées, qui sont des archives judiciaires, ainsi qu'un diplôme de citoyen d'honneur de la ville qu'il a obtenu en 1854. Donc tout d'abord un dossier judiciaire parce qu'il y a eu un procès suite à son décès et à la transmission de son héritage. Et un long et gros procès parce que la fortune était assez importante et dans lequel on trouve des mémoires, en fait. Ce sont des dossiers qui étaient officiellement imprimés, etc., par les diverses parties, et qui nous donnent une multitude d'informations. Donc on apprend, entre autres, que Louis-François Eugène Peyre-Cadias, il est né en 1793, dans une famille protestante de Sainte-Afrique, et ça retrace surtout l'histoire de sa famille. On apprend ainsi que son grand-oncle était parti sans doute vers le milieu du XVIIIe siècle à Saint-Domingue. Vraisemblablement, on ne sait pas préciser, mais on peut supposer que c'était pour faire du commerce. Ça a bien marché pour lui, puisqu'apparemment il a acquis une grande fortune. Il est revenu à Sainte-Afrique en 1785, et là il a trouvé un de ses neveux dans une grande pauvreté, et du coup il a décidé de lui donner la moitié de sa fortune. Et ce neveu se trouvait être le père de notre Louis-François Eugène Peyre-Cadias. Donc celui-ci habitait dans ce qui est aujourd'hui la maison de la mémoire. Il était notaire, conseiller municipal, et toute sa vie, c'était un homme très généreux, et il a fait de nombreux dons à toutes les œuvres de charité de la ville. Et d'ailleurs, dans un des mémoires du procès, il y a une citation qui lui est attribuée en première page, dans laquelle il disait « Je ne dois rien qu'aux pauvres ». Et donc ces mémoires pour le procès, parce qu'il est décédé sans descendance en 1854, donc on peut penser du choléra, même si on n'en est jamais sûr. Et là, il avait une vraiment très grande fortune, composée de plusieurs fermes, plusieurs maisons, plusieurs terrains, etc., qu'il a légué un petit peu à ses plus fidèles domestiques, quelques parents éloignés, et puis la plus grosse partie aux œuvres de bienfaisance de Sainte-Afrique et au Conseil des protestants. Or, il se révéla que les quelques parents très éloignés, parce qu'en gros, ça doit être la 7e génération, n'étaient pas trop d'accord avec ça, et c'est eux qui ont entamé le procès. Louis-François Eugène Peyre-Cadias, donc il est connu à Sainte-Afrique au travers du nom d'une rue, mais il est aussi connu, c'est ce que nous révèle le diplôme de citoyen d'honneur de la ville, parce que c'est lui qui a résolu l'histoire du cimetière grâce à un don généreux. Et du coup, en remerciement, en 1881, on a donné son nom à une rue. C'est donc la rue qui monte du boulevard de la République jusque devant la place, de la Maison de la Mémoire. Et donc cette place portait aussi le nom de Peyre-Cadias jusqu'en 1934 où Borel a changé de nom pour l'appeler Pain-Levé. Et donc cette place et cette rue, c'était donc symbolique, c'était un bel hommage, d'autant plus que la route de Millau débouchait à cet endroit-là en fait. La route que l'on connaît aujourd'hui n'existait pas encore.
Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain, Florian Boulet, Sophie Roumégousse, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.
Cette fin d'année, un spectacle magnifique pour la venue du grand géant rouge, une nouille dans le potage.
Eh oui, Manu, on va encore se jeter dans la sorgue avec moi, je suis désolée. Bonjour tout le monde, au fait, j'ai fait mon apparition dans le studio. Et oui, parce qu'il y a des jours comme ça, des jours où on peut très vite devenir fou, des jours où on se dit c'est moi qui ai un problème, zut ou quoi. Des jours où tout autour de nous, les humains qu'on croise nous plongent dans un immense désarroi. Oui, Manu, c'est triste. Alors nous, ça a commencé la semaine dernière à la radio. On a reçu un petit mail dans notre boîte mail qui nous annonce que la mairie offre un conte illustré à tous les enfants de la commune. Un spectacle jeune public, comme on dit. C'est le jeudi 22 décembre. Ça s'appelle Vive la fée hiver, pourquoi pas. C'est avant Noël, allez, c'est un peu facile, mais bon. Et puis là, on progresse dans le communiqué de presse et on voit que c'est la compagnie Obsession qui propose ce spectacle. Manu, tu fais une petite moue. Qui est la compagnie Obsession ? La compagnie Obsession, elle est beaucoup plus connue pour ses animations de baloches, tu sais, avec toutes les nanas en short paillettes, strass, qui font des reprises des wow. années 80, qui font des remakes de Starmania et des grandes comédies musicales comme Notre-Dame de Paris. Bref, voilà, la compagnie Obsession va nous proposer un spectacle jeune public et la mairie plonge dans ce bain complètement infect. Un petit aperçu quand même de ce spectacle, La Fée Hiver.
Bienvenue, les bords. Bonjour. Vous allez m'aider à déchiffrer mes formules magiques pour la recherche de la Fée Hiver. Elles sont décrites dans le vieux livre.
Bonjour. Vous trouvez jolis, les enfants?
À retrouver la feuille verte et ça m'énerve, vous savez ça?
Nous n'avons qu'à demander de l'aide à Madame la Lune. Mes sœurs, c'est le retour de la feuille verte.
Audrey, ça va nous changer des petits rennes en tutu.
Eh bien écoute, oui, là il y en a une sacrée tripotée de petits rennes en tutu, il y a des petits nains partout, il y a plein de couleurs, plein de bruits. Alors moi j'ai vraiment mal au cœur pour toutes les compagnies qui sont dans le coin et même au-delà, tu vois, qui travaillent sur les notions de réflexion, tu vois, derrière le spectacle vivant, c'est pas juste mettre des couleurs et des bruits un peu partout. Et on a plein de gens, des médiateurs culturels, des structures qui proposent des choses avec beaucoup plus de sens que cette chose-là qui ne ressemble pas à autre chose qu'une émission de divertissement sans l'écran. Voilà, donc jeudi dernier, on était un peu fumasse à la radio, moi surtout, je me suis dit, c'est pas possible, la mairie de Saint-Taf avec la programmation du Petit Carré d'Art de Marie-Jo Zénègre, qui justement essaye de proposer autre chose que la soupe qu'on nous sert partout, et là, boum, pour les enfants, voilà ce qu'on nous propose pour Noël. Donc j'étais un peu agacée, j'ai commencé le week-end déjà bien remontée, je vais vous épargner ma vie privée, mais le week-end a continué, j'ai fait des rencontres du troisième type, ça serait trop long, donc je vais passer. Et je me suis dit, chouette, lundi, je retourne à la radio, et chouette, je vais aller faire un reportage à la formation des délégués de la cité Jean Jaurès. La formation des délégués, je m'y connais un petit peu, j'ai passé quelques temps dans ce milieu-là, et c'est vraiment un moment fabuleux, parce que ces jeunes adultes qui ont choisi d'être élus, de représenter leurs camarades de classe, c'est quand même une charge qui n'est pas anodine. Et la formation des délégués, moi je croyais que c'était l'occasion de leur poser des questions, de les faire réfléchir sur les mots, sur ce que ça veut dire la représentativité, ce que ça veut dire porter la parole d'un groupe constitué d'individus. Enfin, il y a tout vraiment un travail super intéressant à faire autour de ça. Et donc, je me faisais une joie d'aller à cette journée. Donc, j'y suis allée avec Delphine, ici présente. On est arrivé. Et là, on a trouvé Alain Fauconnier qui essayait désespérément d'expliquer aux jeunes comment marche le système parlementaire français. Bon, voilà, il a un petit peu galéré, j'avoue. Et puis ensuite, y a un membre du Rotary Club qui est arrivé. Alors le Rotary Club, bon voilà, c'est sympa, ils font plein de gentilles choses pour les gens qui souffrent et pour les gens les plus démunis. Alors vous allez me dire, Audrey, là t'es en train de casser du sucre sur le dos du Rotary, t'aurais préféré que ça soit Radio Saint-Taf qui soit invité pour parler devant les élèves. En fait, pas du tout. Moi, ce qui m'a vraiment gênée, c'est que juste, il y a quelqu'un qui a fait la promo de sa structure, sans que les élèves aient aucune indication sur ce que c'est un club service, quelle est la différence avec une association loi 1901, comment on y rentre. Bref, les gamins ont juste eu du blabla, et ça a continué toute la journée avec l'adjudant de la gendarmerie nationale, les Restos du Cœur et l'intervention d'une assistante sociale. Et sur toute la journée, finalement, les élèves ont pu se poser la question de ce que représente le rôle de délégué juste trois quarts d'heure, de 13h45 à 14h30. Donc voilà, j'étais un petit peu agacée parce que quand même c'est important, et dans l'éducation nationale, j'osais espérer qu'on puisse proposer quelque chose où la réflexion était au cœur des choses, et puis je vois que c'est pas ça, donc je suis vraiment très très fumasse. Et puis y a des jours comme ça, franchement, où tous les moyens sont bons pour essayer de tenir le coup, on y croit, on essaye de pas se jeter dans la sorgue comme tu disais, Manu, et Carmen Maria Vega, elle a trouvé une petite solution, à vous de juger.
Même si c'est pas vrai, on ferait comme si on simulerait, histoire de te remonter le moral, parce que t'as l'air fané, tu sais, des fois vaut mieux aller de l'avant, laisser parler les médisants, les fachos, les jamais contents, faut se dire même si c'est du vent, les gens sont gentils. C'est comme l'autre fois avec Bobette, on se baladait, on faisait rien de mal, jusqu'à ce qu'il se fasse traiter de tapette, de petits pédés, de grosses pédales. Alors du coup on est parti, on a tracé, on n'a rien dit, sinon on la laisse faire taper dessus, c'est comme ça, c'est la vie. Donc des fois je me demande à quoi ça sert tout ça. juste avant que mes nerfs se tendent. Je chante ça.
Les gens
à ce qu'ils se mettent à t'aimer, t'auras ton nom dans un cimetière et moi je serai arrière mémé, parce qu'un con ne change pas, ou tout doucement du bout des doigts, on s'en fout, on n'est pas pressé, ça prend du temps tout ça. Si des fois tu te demandes à quoi ça sert tout ça, juste avant que tes nerfs se tendent, rappelle-toi que, rappelle-toi que, rappelle-toi.
Les gens
on sourit.
Ça sert pas à vraiment à grand chose et ça sert à rien alors.
Ah, on sourit, on sourit, les gens sont gentils, on desserre les dents s'il vous plaît, on s'énerve pas.
Non, distribution de camomille pour tout le monde parce qu'on va calmer toute la populace, la radio, tout le monde. Allez, ben écoutez, l'émission touche à sa fin. On va remercier, on va surtout libérer Delphine qui va retourner dans son Rodez.
Radio-Temps.
Voilà, elle était en stage. Vous l'avez déjà écoutée la semaine dernière. Donc, ça fait un peu plus d'une semaine qu'elle est là. Mais bon, on va la relâcher quand même parce que là, elle commence à en avoir un peu marre. Et puis, elle a envie de rentrer chez elle.
Merci Manu et à toute l'équipe et à bientôt.
Bah à bientôt Delphine. Merci Audrey de ton
rien.
Coup de gueule.
Je t'ai pas tout dit en plus.
Ouais,
j'en
vrai,
ai d'autres pour la semaine prochaine, vous expliquez pas.
Tu m'en avais déjà parlé et en plus c'est pire le reste. Bref, ben on le garde pour la semaine prochaine. Merci Elsa pour sa soupe aux choux et ses fadaises. Merci Chloé, merci Phil, merci à tous. Et on se retrouve, ben pas demain, on se retrouve vendredi, même endroit, même heure. Voilà, c'est fini pour vivement ce trottoir qu'on se...
Que tu sortes du couloir pour que tu la touches enfin.
Voilà, merci Audrey.